Bienvenue au Polysecure épisode technique. Je suis accompagné de Arnaud.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de Azure AD, Azure, tout ce qui tourne autour de l'identité au niveau du volet Azure, parce qu'il y a des distinctions très importantes à y faire. Donc, je vais te laisser amorcer avec ça, puis comme d'habitude, j'ai plein de questions.
J'ai plein de questions moi aussi, ça tombe bien. Oui, effectivement, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu de tout, on va dire, le plat de spaghetti, de tout ce qui va être la gestion d'identité, des permissions, comment auditer, regarder, protéger, en fait, nos ressources, nos assets, nos biens, qui sont en fonctionnement du côté de chez Microsoft, parce que c'est le modèle qu'on va regarder. Deux composants majeurs à aborder, il faut comprendre tout de suite la différence, c'est il y a le côté Azure AD, Entra ID, et le côté Azure, exécution de ressources ou déploiement de ressources, qui ont deux modèles différents, même si c'est proche.
Et justement, c'est très important de faire la distinction entre les deux parce que ça a des conséquences qui peuvent être très dramatiques si on maîtrise mal cette distinction-là.
Ça a des conséquences avec des attaques possibles, l'utilisation d'attaques possibles. Les classiques over privilege, là, c'est jamais bon d'être root. En fait, faut jamais être root. Personne veut être root. Donc, la première partie, c'est vraiment Azure AD, qui s'appelle maintenant Entra ID, pour ceux qui sont pas au courant, ou celles qui ne sont pas au courant. Microsoft a changé de nom, c'est pas plus mal, même si j'aime pas les changements de nom continus, ils auraient mieux fait d'appeler ça correctement dès le début, mais on pouvait pas prévoir le futur comme ça. Entra ID, c'est vraiment la source d'identité, dans l'environnement Microsoft InfoNuage. Je vais pas dire Azure, justement, parce que c'est utilisé aussi pour Microsoft 365, tout comme ça l'est pour l'infrastructure Azure, mais ça peut aussi l'être pour des applications, ça peut aussi l'être pour des cloud providers externes comme AWS lorsqu'on fait du SSO. Donc, c'est un identity provider. Comme on l'imagine, en fait, le but dans Azure, c'est d'utiliser ces identités pour leur donner des permissions sur des ressources Azure, dépendamment de notre modèle, notre découpage, et comment est-ce qu'on veut donner des accès, lecture, modification, en fait. Il y a beaucoup de permissions, on verra un peu plus tard. Azure AD, bien comprendre, c'est pas du airbag. Qu'est-ce que le airbag? C'est des role-based access. Alors qu'Azure AD, c'est une identité, on peut s'authentifier, on peut prouver qui on est. Et ensuite, on peut donner des accès. Bien sûr, il y a un overlap entre les deux systèmes. Azure a besoin d'Azure AD, Entra ID, pour fonctionner, pour attribuer des permissions. Mais on n'a pas forcément besoin d'Azure pour faire de l'Azure AD et utiliser ses identités dans Microsoft 365. Les rôles, par exemple, ne se recouvrent pas entre les deux systèmes. On peut avoir différents types de rôles. Donc, forcément, si vous travaillez dans l'univers de Microsoft, du côté d'Azure AD, on va parler de Global Administrator, de User Administrator, d'administrateur de facture. Je sais si j'essaie de le traduire en direct, mais je le connais pas. Et du côté d'Azure, en fait, on va parler plus de rôle de contributeur, de propriétaire, de lecteur, de User Access Administrator. Et là encore, du côté role-based, en fait, quand on verra plus tard, mais c'est limité à un scope, à une portée. Donc, c'est pas forcément des rôles globaux. Ça peut être limité à un ensemble de ressources, à un abonnement, à une structure. Mais ça utilise cette identité. Donc, c'est
La façon que j'essaie de l'expliquer pour que les gens comprennent la nuance très importante entre les deux univers, c'est que M365, c'est comme un produit qui vit dans Azure. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, là. Lancez-moi pas des tomates parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais la réalité de la façon de le concevoir, c'est que c'est comme un service qui a été développé, qui repose sur un vrai hébergeur de type cloud, comme Azure est. Donc, la notion, elle vit dans son univers à elle, à quelques éléments près, puis tu vas faire les nuances. Mais c'est comme ça de le séparer. Donc, ce qui existe dans cet univers-là, qui est hébergé, c'est comme si j'avais créé une application et que j'avais des droits d'accès dans cette application-là que j'avais développée, qui n'ont pas de lien avec mon infrastructure, mais qui utilisent la même source d'identité. Et source, on parle vraiment de source d'identité, pas de source de privilèges, pour effectuer l'authentification des deux côtés. Un peu comme on voit dans nos infrastructures plus classiques, où les rôles d'administration de gestion des serveurs n'ont pas de lien avec ceux qui font utilisent les dites applications.
Si on les analogies sont toujours trompeuses, mais c'est même si ça peut aider à comprendre. Dans mon cas, Arnaud Landry pourrait très bien avoir un rôle de lecteur dans Azure AD et un rôle de, je l'ai mis comme exemple, qui vole contributeur, donc un gestionnaire, un contributeur sur des coffres forts de gestion de secrets. Ça me permettrait de lire des informations dans Azure AD, mais pas forcément de créer quoi que ce soit ou de modifier quoi que ce soit. Et ça me permettrait de manager, de gérer ces coffres forts sans forcément avoir le droit d'accéder au secret. Donc, c'est vraiment un rôle très précis, un rôle par défaut au niveau Azure. Et c'est cette combinaison de permissions, en fait, à la fois du côté identité provider, donc Azure AD, Entra, et du côté Azure, qui fait que je peux exécuter mes tâches au quotidien, travailler, et que si jamais je me fais compromettre mon compte, en fait, on est un peu limité dans l'impact qu'un attaquant pourra faire. Il trouvera bien évidemment bien à faire avec ces permissions-là, mais au moins, il ne pourra pas aller détruire n'importe quoi alors que je ne suis pas censé avoir le droit de le faire. Y a des rôles quand même assez... comment dirais-je ? À risque dans Azure AD. C'est le Global Administrator, par exemple. Même les User Administrator. En fait, tout ce qui contient le mot administrateur, finalement, c'est un peu comme Terminator. Faut faire attention, là, c'est risqué, ces rôles-là. Il faut vraiment savoir qui les utilise, quand, pourquoi. Le Global Administrator, par défaut, n'a pas de permission sur Azure. Okay, c'est vraiment deux environnements isolés. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a une capacité, je l'ai plus forcément sur mon écran, il y a une capacité de s'activer des permissions au niveau Azure AD pour venir donner des accès aux ressources Azure du côté de chez Microsoft. Il faut faire attention à ça, ce qui veut dire que un global administrateur par défaut n'a pas accès aux ressources Azure, mais il peut se donner les permissions de se donner les accès. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais il faut bien comprendre que du coup ce rôle-là est extrêmement critique. On ne le distribue pas à n'importe qui. Dernier point à voir au niveau Azure AD. Et ça, c'est souvent oublié. Mais en fait, il y a des partenariats au niveau de la gestion, que ce soit des licences ou aussi de la gestion des Azure. Ça vient souvent en fait par le biais de Microsoft 365. Comme on le comprend, si on a mal géré la délégation des droits, ça peut impacter Azure indirectement par rebond. C'est la délégation des accès privilèges pour les partenaires, pour les providers. Ça, c'est une Microsoft a mis ça dans une autre section. Et c'est tout assez obscur, c'est pour ça que beaucoup de clients généralement l'oublient, se retrouvent avec une liste de Delegated Partner ou Administrative Privilege, parce qu'un jour ils ont acheté une licence, puis ils ont cliqué, puis finalement ça a donné des accès externes, sans qu'ils le sachent. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder à la question, avez-vous des partenaires pour quelque chose dans votre gestion? Si la réponse est non, vous retirez tout ça, fermez la porte, et puis si jamais il y a besoin de la rouvrir, c'est toujours possible. Mais c'est quelque chose de risqué, étant donné qu'on l'a compris, si on est global administrateur, on peut prendre la propriété sur les ressources Azure. C'est assez clair jusque-là?
C'est très clair jusque-là. Et oui, c'est ça. Ça, j'en ai vu des tenants qui avaient des partners qui apparaissaient. Puis juste, les premières choses que je vais examiner, puis juste m'assurer que le contrat est encore actif entre le partenaire et le client, parce que s'il l'est plus, faut botter ça le plus vite possible, parce qu'il y a un accès techniquement quasi plus élevé que le global admin dans le tenant, parce qu'il est comme par-dessus.
Il est pas visible facilement comme ça. Là, c'est encore dans une autre blade, dans les interfaces de Microsoft. Donc, c'est assez, on va dire, tricky, vicieux.
Vicieux. Puis c'est un peu, pour ceux qui se connaissent, un peu comme ce que Lighthouse permet de faire un peu. Là. C'est un peu ce qu'un Lighthouse permet de jouer par-dessus. C'est la version peut-être grand public de cette notion-là de partner où eux-mêmes étaient branchés dans un tenant qui leur appartient pas. Puis le Lighthouse fait essentiellement la même chose à quelques différences près.
Donc ça, c'était la première partie Entra ID. On va lui utiliser son nouveau prénom plutôt que de parler dans le passé. Mais toutes les docs parlent encore d'Azure AD. Donc, faut avoir l'alias. C'est le moment de faire un alias dans son esprit. Donc maintenant, on va parler d'Azure, donc l'exécuteur, le système là qui fonctionne avec des subscriptions, des abonnements pour exécuter de la compute ou du stockage ou du service. XY, selon ce que Microsoft propose. Et là, on est sur un modèle non plus forcément avec des rôles comme dans Azure AD et de la gestion d'identité, mais on est sur du role-based access control. Donc, on attribue des permissions à des objets qui peuvent être des utilisateurs ou de différents types. En fait, le premier élément principal dont on va parler, c'est le service principal, justement. Un service principal, c'est un objet représentant l'objet à qui on va attribuer des permissions dans l'environnement. Donc, ça peut être un utilisateur, ça peut être un groupe, ça peut être un service principal ou ça peut être un manager identity. Ça, c'est ce que dit Microsoft dans la doc. Mais quand on va regarder ce qu'est un service principal, on se rend compte qu'en fait, un service principal a 3-4 types et qu'un manager identity, c'est un service principal à ce niveau-là. On en a d'autres aussi, donc on a des applications qui peuvent être des services principaux, puis on a des choses quand on lit dans la doc, par exemple comme le social LDP qui est for internal use, c'est dans la doc, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais c'est là. Ça, c'est les petites choses qu'on retrouve soit dans la documentation, soit dans les API de Microsoft, comme des fois on voit des règles IPv6, c'est non consommable, c'est non documenté, mais ça répond dans l'API, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Ces services principaux, à savoir que par exemple, généralement on donne des droits à des utilisateurs, mais effectivement, lorsqu'on fait de l'IAC, en fait, on va pas donner des droits à un utilisateur qui va répondre OK sur son MFA, sur son téléphone ou mettre sa YubiKey lorsqu'il veut faire un déploiement. On va avoir des systèmes de connexion avec des applicatifs ou quand on a des applications, par exemple, qui se font attacher avec une identity, par exemple un serveur pour se connecter sur un KeyVault. Il n'y a pas d'intervention humaine, on est sur des systèmes, des accès entre systèmes, c'est là où on va avoir ces concepts justement. Une application au niveau des manager identity, on va avoir par exemple des manager identity rattachés à des ressources, typiquement une machine, web app, peu importe. Ça, faut faire attention hein, lorsque vous créez des ressources. Vous pouvez créer potentiellement des manager identity, mais vous avez deux types de manager identity encore, c'est pour rendre les choses encore plus simples. Est plus souple aussi, c'est que vous allez avoir des systèmes assign ou des user assign. System assign, c'est rattaché à une ressource et un user assign, ça peut être une manager identity consommable par plusieurs ressources. Donc, si vous avez typiquement différents types de ressources, mais que vous donnez trop de privilèges à cette identity, vous venez potentiellement de donner des accès à une ressource, à des choses qu'elle ne devrait pas accéder. C'est un des enjeux à ce niveau-là. Donc ça, c'est les security principles. Typiquement, par défaut, vous pouvez, lorsque vous créez une machine virtuelle, lui créer sa manager identity, puis ça va aller créer son petit objet tout seul, magiquement, sur lequel vous allez pouvoir attribuer des permissions. Donc on est un peu au-delà de simplement l'utilisateur. Ensuite, dans le concept d'airbag d'Azure, on va avoir la définition d'un rôle. Donc là, on retrouve un peu les mêmes concepts, ou même pas un peu, mais complètement, dans d'autres cloud providers. Vous allez avoir des fichiers structurés, YAML, peu importe le langage, dans lequel en fait, vous allez donner un nom à ce rôle. C'est toujours bien de lui donner un nom, parce que nous, les humains, on peut faire ça aux chiffres. Vous allez avoir des actions. Vous allez retrouver des fois des étoiles, mais c'est pas bien, en fait, on verra plus tard. Les étoiles, c'est jamais bien dans la vie, sauf quand on regarde le ciel la nuit. Vous allez avoir des actions. Les actions, en fait, c'est des éléments unitaires sur un service, par exemple. Donc, ça va être déposer fichier, créer fichier, supprimer fichier sur un compte de stockage. C'est des actions très unitaires. Il y en a vraiment trop. Il y en a des milliers, des milliers en fait d'actions possibles si jamais vous voulez jouer à ça, à créer vos rôles personnalisés. Bien sûr, Microsoft fournit des rôles par défaut. Il faut trouver le juste milieu entre les deux, on verra un peu plus tard. Il y a aussi des not action. Des fois, on veut donner un peu toutes les permissions, mais on veut pas donner la suppression, par exemple. Donc là, ça permet de soustraire aux actions un certain nombre d'actions qu'on ne voudrait pas. On verra un peu plus tard, juste maintenant, la notion de scope. Donc un scope dans la partie airbag, c'est une portée en français. En fait, c'est à quel élément est-ce qu'on va rattacher cette permission. Il y a toujours une notion d'héritage, donc du haut vers le bas, du bas vers le haut, dans l'environnement d'Azure. Et donc, on a différentes ressources objets qui peuvent être utilisés pour activer, appliquer ces permissions. Donc, on va avoir des objets, des groupes de gestion, ce qu'on retrouve justement dans une landing zone. Les objets subscription, abonnement. Généralement, si vous avez un tout petit environnement, vous avez probablement un seul abonnement, mais il faudra au moins en créer deux, voire trois. Puis, à l'intérieur d'un abonnement, vous pouvez avoir des ressources groupes, comme des dossiers, on va dire, ou des conteneurs virtuels pour organiser ce que vous allez mettre à l'intérieur, c'est-à-dire vos ressources, ce que Microsoft va vous facturer. Pour être clair, c'est ces ressources-là qui vont être à la fin sur votre facture, et c'est ces ressources-là sur lesquelles vous allez potentiellement devoir donner des permissions à des humains, à des groupes d'humains ou à des systèmes. Et dernier élément principal, bah, c'est le role assignment dans le concept du RBAC, c'est la glue entre les trois, c'est-à-dire un security principal, un user, un humain, comme j'ai dit, une définition de rôle et un scope. Et ça fait un role assignment, une assignation de rôle, comme un titre, en fait, finalement, on pourrait avoir dans une organisation. À savoir qu'Azure supporte aussi les role deny. Moi, je le pratique pas trop. C'est pas une pratique qui était très répandue il y a quelques années parce que ça ne marchait pas. Et les deny assignment, bah, c'est l'inverse, parce que ce dont on a discuté depuis tout à l'heure, c'est des autorisations, en fait. C'est des rôles d'autorisation. Mais on peut aussi utiliser, dans certains contextes, des rôles de deny. Ça peut être utile, parfois, lorsqu'on veut interdire des accès à certaines ressources ou certaines opérations, par exemple. Ça pourrait être des moyens d'avoir des guardrails à haut niveau dans l'organisation pour faire un deny à l'ensemble d'un certain nombre d'utilisateurs. Si on veut protéger ou interdire, par exemple, des accès à des API particulières, ça peut être le genre d'utilisation qu'on fait. À savoir que dans les documentations de Microsoft, ils ont un beau petit graphe. Si vous allez voir Azure RBAC, là, je crois que c'est dans la première page, vous avez un beau petit graphe qui vous explique comment une évaluation est faite. C'est pas très compliqué, hein. C'est un process assez simple. Et quand vous lisez le YAML justement d'un rôle, finalement, c'est quand même assez explicite. C'est pas mal ça sur la partie RBAC pure. Est-ce que tu as des questions sur ça déjà?
Non, bah ça va très bien. Mais moi, je suis pas mal dans ma zone de confort dans ce genre de choses-là parce que j'en ai fait quand même suffisamment pour pas me perdre. Puis tu sais, dans le fond, les notions de deny sont intéressantes quand on veut pas recréer un rôle de toute pièce, aller de fouiller dans les 10 000 permissions granulaires et de vouloir juste bloquer un sous-ensemble de choses plus rapidement. Je vais l'utiliser dans ce contexte-là parce que c'est plus rapide. Est-ce que c'est idéal? Non. Parce qu'il vaut mieux redessiner un rôle correctement au lieu de commencer à utiliser des petites manœuvres comme ça. Mais globalement, quand on est pressé, c'est l'approche que je vais utiliser. Alors, pour sauver du temps.
Certain, si on veut limiter certaines opérations sur des API, c'est peut-être là où on va commencer à utiliser des étoiles à certains moments et faire des deny, mais bien être certain de ce qu'on est en train de pousser comme code. Bon, peut-être une question de risque d'arrêt de production ou ce genre de choses aussi. Hein.
C'est ça, puis c'est toujours la place, parce que quand on utilise des deny, ben, on a de la place à l'erreur. Les oublier ou le retirer par erreur. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas idéal à utiliser à long terme, mais pour patcher rapidement des besoins dits urgents, ça peut toujours servir. Mais pour le long terme, moi, j'aime pas parce que ça rend compliqué la logique d'accès et c'est propice à l'erreur.
Ah, c'est peut-être aussi un paradigme de je sais pas s'il y a une différence entre des gens qui font des TI depuis un certain temps ou pas. Mais si on est un peu dans une réflexion, un peu comme dans un pare-feu où par défaut c'est deny et on rajoute des règles de halo, là on est un peu sur le même principe. On oublie un peu qu'il y a un deny spécifique qui repasse au-dessus, qui vient un petit peu contrecarrer notre halo. On comprend pas pourquoi. Et effectivement, ça peut aider à la compréhension, mais ça permet de bloquer rapidement. Donc ce qui est plutôt en termes d'intervention ou de blocage à un certain niveau, c'est plutôt intéressant. Au niveau des RBAC, tout à l'heure on parlait des rôles. En fait, il y a deux types de rôles et c'est là où ça devient, moi, ma zone d'inconfort, passe au désordre organisé qu'on peut très rapidement atteindre dans ce type d'environnement. On a les rôles par défaut fournis par Microsoft. Je ne vais pas compter combien on avait, mais il y en a quand même un certain nombre. Là, on n'a plus forcément le mot administrator qui ressort souvent dans le contexte d'Azure, mais c'est plus le mot contributeur, contributeur. Donc, on va avoir les rôles de contributeur, de owner. Celui-là est très mauvais, hein, owner, faut faire attention. C'est comme global administrator. Même si contributeur aussi n'est pas très, comment dire, à prendre à la légère. On a les rôles de leader, puis on a des rôles selon les services, contributeur qui vole, contributeur compte de stockage, etc. Ces rôles-là, il faut bien les connaître. Ils peuvent aider à accélérer lorsqu'on a un environnement assez simple. Quand on a quelque chose d'un peu plus compliqué et qu'on veut vraiment donner du juste assez en termes de privilèges, du list privilège, là, on peut faire des custom roles. C'est là où ça devient assez amusant quand on regarde les provider operations. On arrive sur des milliers, genre, je crois que j'ai noté 17 000 opérations possibles sur les services Microsoft. Moi, passer 5 lignes dans ma liste d'achat, là, j'ai du mal à me rappeler. Là. Donc, faire des custom roles avec des dizaines et des centaines et des milliers d'opérations à attribuer à des systèmes qui vont évoluer au travers du temps et des responsabilités, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, en fait. Parce que là, on n'est plus sur le... C'est bien le principe du list privilège, là. Mais est-ce que c'est applicable? Est-ce que ça survit au jour 2? Est-ce que ça continue ou est-ce que c'est un travail continu, justement, à maintenir, qui demande une charge énorme? Faut y réfléchir.
Ouais, c'est ça, faut pas se créer du travail non plus, là. Parce que si on se crée ça, on se place dans des zones où il y a potentiellement des erreurs. Et il y a toujours la possibilité, je ne sais pas, d'aller dans cette direction-là, de pimer qui viennent régler une partie de ce problème-là, en n'assignant pas de façon permanente les rôles pour les individus, pour les corps chauds, mais ce qui permet de contrôler davantage.
Ça, c'est peut-être un biais, j'en parlais dans les recommandations plus, mais c'est pour moi, le PIM, par défaut, n'est pas censé être autre chose que sans accès lorsqu'on se connecte dans Azure. On est censé justement que faire du PIM dans le cadre d'une opération prévue pour un moment donné avec un contexte particulier. Donc oui, effectivement, le PIM, c'est un très bon point. C'est comme dans les pratiques, c'est comme le double facteur. Je pense que c'est non négociable, en fait, tout simplement. C'est obligatoire. C'est comme on fait un sudo sur une machine et on fait pas un su-root, quoi. On élève nos privilèges et on se déconnecte une fois qu'on a terminé l'opération. C'est toujours bien de le rappeler. Pour moi, ça paraît normal. Mais des fois, c'est un peu moins. Là où ça devient compliqué, les custom roles, c'est par exemple, j'en parlais avec un client, c'est lorsqu'on veut, par exemple, dans des cadres de pipeline, définir des rôles particuliers pour les service connection, pour faire les déploiements corrects. Ne pas non plus avoir 50 service connection pour seulement deux projets, ça n'aurait aucun sens. Mais ne pas non plus avoir des permissions qui soient trop larges au risque d'avoir un débordement ou trop d'accès à un système ou un release qui permettrait d'endommager l'autre système. C'est là où il faut trouver l'équilibre. On a le choix avec toutes ces opérations fournies par Microsoft. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est d'avoir vraiment une vraie analyse, une vraie observation de ce qui est fait, qu'est-ce qui est consommé, afin de créer des règles automatiquement qui permettent d'ajuster dynamiquement les permissions. Il y a des outils qui font du comportemental pour détecter des anomalies, les KIM par exemple, mais c'est pas des choses qui sont naturellement exploitables comme ça dans les interfaces de Microsoft. Mais ça existe, c'est comme les permissions NTFS, on peut très rapidement s'y perdre jadis, ou les permissions LDAP, c'est sympa, il y en a des centaines, puis on finit par donner des droits administrateurs. C'est moins sympa. À savoir que de toute façon, même si on nous dit que le cloud est illimité, les nombres d'assignations de rôles sont limités dans Azure. Il y a des limites, comme tout. Comme pour tout système. Donc, il y a un certain nombre de rôles qui peuvent être créés. Donc, Microsoft a mis quand même des chiffres assez hauts. Là, on parle de 4000 rôles assignment par abonnement. Ça commence à en faire du monde qui travaille sur un seul abonnement. Donc, il y a des limites, faut en prendre compte. Donc, faut pas non plus rentrer dans l'excès de recréer des systèmes qui soient vraiment trop granulaires et inexploitables au final. Donc, c'était pas mal pour conclure sur la partie airbag, donc comme on le voit là, on a vraiment la partie identité, où on peut voir des rôles du côté Azure AD, et puis on a le côté airbag d'Azure, où en fait on va avoir des permissions qui peuvent être plus ou moins compliquées, et qui vont dépendre en fait soit des rôles des équipes, faut comprendre ça, soit des de l'objectif du système qui va communiquer dans Azure, soit du rôle d'un individu, et ces rôles-là peuvent être élevés ou attribuables avec PIM, qui lui est dans Azure AD. Donc c'est un système assez complexe où il faut pas s'y perdre, il faut bien comprendre le découpage. C'est certain que plus on découpe intelligemment, et c'est très dur de faire quelque chose d'intelligent et simple, l'infrastructure, plus le problème justement va être simple à résoudre au niveau unitaire, au niveau abonnement ou au niveau ressources. Si on a un seul abonnement dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi, et on ne sait pas trop qui travaille, ça va être compliqué de faire des rôles et de savoir finalement qui c'est qui a arrêté cette machine virtuelle, pourquoi il avait les permissions.
Ouais, c'est ça. Puis quand tu montrais entre autres les limites, c'est clairement fait pour des très très grandes entreprises. Plus l'entreprise est de petite taille, plus les personnes vont cumuler des rôles, ce qui est tout à fait normal. Puis ce qu'on peut mettre en place justement, mais faut toujours l'adapter. Faut pas tomber dans le piège du ultra granulaire également. Le PIM vient compenser entre autres de l'aspect de pas tomber dans l'ultra granulaire parce que j'en ai vu, puis c'est un emploi à temps plein. C'est comme tu parlais de NTFS, j'avais vu des personnes qui avaient commencé. C'est un trip intellectuel super hot, mais c'est parce que ça s'opérationnalise pas ensuite. Fait que le travail d'opérationnalisation de gestion de ces degrés de privilèges-là à NTFS était tel que ça prenait une équipe de à peu près l'équivalent d'1% d'ensemble du workforce juste pour gérer ça. Ce qui est un peu fou en termes quand tu le regardes comme ça. Donc, c'est un mauvais découpage, une mauvaise utilisation. Donc, on faut quand même être un peu entre les deux, être plus mitoyen que ça dans l'usage.
Il faut rentrer dans un système, mais là, c'est toujours... Il y a une belle théorie. Faut toujours essayer de l'atteindre. Faut voir si on ne l'atteint pas suffisamment, je pense, avec un certain nombre de mesures, justement. Je pense que dans une petite équipe, un PIM et d'une élévation de privilèges à la demande pour un temps limité sur une action limitée, finalement c'est la réalité de ce que fait l'employé ou la personne qui est en train d'intervenir, et c'est une progression par rapport au fait de simplement se dire bah je suis tout le temps global admin et puis j'agis comme tel. Là j'ai besoin de me connecter dans un environnement Azure, je me mets en lecteur, et puis en fait ce que je voulais c'était faire une modification sur le réseau, je me donne les droits réseau pour la prochaine heure et puis je fais ce que j'ai à faire. Au moins, c'est journalisé. Au moins, on a un contexte. Au moins, s'il se passe quelque chose, on peut désactiver ces accès. On sait exactement. Et c'est moins confus que de savoir, je me suis fait voler mon compte. Je suis global admin en permanent. Ça va pas bien se passer. Pour revenir au point global, justement, sur ces pratiques-là, là, j'ai une petite liste, justement, c'est le premier, en fait. Dans la liste des bonnes pratiques, là, c'est simplement donner les permissions ou les accès que l'utilisateur a besoin. Puis je compléterai, comme tu le disais, quand il en a besoin. C'est plus ou moins implicite pour moi. Là encore, on va pas non plus faire des rôles granulaires pour chaque opération du PIM. Sinon, la personne qui travaille sur Exchange ou je ne sais quel autre système va commencer à devenir un petit peu désagréable. Si juste pour redémarrer sa machine, il faut qu'il fasse un PIM, et pour appliquer un patch, il faut qu'il fasse un PIM. Au niveau des propriétaires, parce que ça c'est aussi un rôle qui existe, c'est aussi une responsabilité, c'est un concept encore autre que l'identité, mais il y a une responsabilité dans les abonnements Azure, qui est le propriétaire, et la recommandation c'est 3 maximum. Le minimum c'est 1, mais en réalité c'est 2. Parce qu'il en faut toujours 2 au cas où il y en ait un qui fasse défaut. Même si on l'a vu qu'un global administrateur pourrait revenir par la bande. Mais s'il y a un seul admin et que global administrateur, il n'y en a qu'un seul et que cette personne-là, elle est partie, elle ne veut plus répondre au téléphone, là, on commence à avoir des soucis au niveau de l'accès à son propre système. Faut toujours penser à ça. Donc, c'est important. MFA, Je ne sais pas si c'est encore utile de rappeler que dans un environnement info nuagique, le MFA, là, c'est non négociable. Donc, il faut l'activer pour tout. Toute personne qui a là, normalement la capacité de owner, c'est obligatoire du côté de Microsoft. Au niveau des contributeurs, donc read-write, c'est aussi obligatoire. Sinon, vous allez avoir des pop-up de warning dans Defender. Mais c'est sûr que si vous n'allez pas les voir, vous ne les verrez pas. Mais vous allez en avoir et vous n'allez pas respecter les normes. Moi, j'irais même à haut niveau que si vous avez des accès pour ce qui va être des personnes qui ont des rôles owner ou des rôles qui peuvent avoir accès à des données critiques, j'irais pas sur du MFA, par exemple, sur du password avec du SMS ou ce genre de choses. Achetez une clé FIDO sur Amazon là, si vous n'avez pas trop de moyens, mais utilisez quelque chose qui soit un peu plus correct. Ça coûte $70 pour avoir une clé FIDO.
Ça va vous aider. Je vais faire une parenthèse très importante, puis la nécessité de ça, surtout pour les administrateurs, parce que il existe EvilGenix qui est capable d'intercepter les jetons de connexion qui bypass le MFA classique comme on le connaît. Donc, il ne bypass pas encore les jetons physiques. Donc, c'est très important de protéger. Quand une certaine normale, on peut toujours tolérer ce genre de situation-là. Mais pour un administrateur avec Global Admin côté M365 et les owners du côté Azure, on ne devrait même pas tolérer ce genre de choses-là sans clé physique. Connaissant que ça existe depuis 2017, ce EvilGenix, Jinx, qui permet justement de voler le cookie de session, puis aisément, en plus, j'ai vu une démonstration, puis j'ai juste comme tombé des nues, j'ai juste comme réapparu dans la vraie vie quand j'ai vu ça, je fais comme, ah ouais, mettons que c'est assez hot comme système automatisé pour faire ce genre de choses-là. Et sachez que les admins vont se faire afficher beaucoup plus que les autres, parce que c'est eux, c'est leur identité qu'on veut obtenir, parce qu'elle est plus intéressante.
Ça, c'est certain. Et là encore, c'est une question de... En plus, l'avantage avec une clé, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a plus besoin de négocier, par exemple, quand on est dans une entreprise, à savoir, est-ce que j'utilise le téléphone personnel ou pas, ou quoi que ce soit. Non, c'est une clé. C'est terminé, c'est détaché, on n'en parle plus. Ça vient clôturer ces débats d'utilisation personnelle ou professionnelle. Fortement, en fait, c'est même pas une recommandation, ça devrait être une obligation. Moi, j'ai reçu une deuxième clé récemment sur que j'avais rachetée. Et sur Apple, par exemple, lorsqu'on s'onboard avec des clés FIDO, ils en exigent deux, en fait, tout simplement, pour avoir une clé de backup, forcément. Ma première clé, elle, était un peu fatiguée, c'est pour ça que j'en avais racheté une deuxième. Et c'était l'occasion, en fait, d'activer ça chez Apple, mais eux, ils refusent une seule clé. C'est deux clés ou rien, sinon tu n'utilises pas le hardware. À titre personnel, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde de claquer, dépenser $70 tous les X années pour une clé d'authentification.
Mais c'est parce qu'à titre personnel, tu es tout seul, tu es le seul responsable de ton compte. Donc c'est à ça. Ce moment-là, c'est ça le trade-off à faire, parce que là, toi, tu as deux clés. Dans l'entreprise, tu vas avoir deux personnes qui ont chacun une clé. Mais en personnel, tu es obligé de remplacer les deux personnes et être le seul possesseur des deux clés.
Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose de la part typiquement d'Apple de forcer un peu cette partie-là. Au niveau des autres recommandations, on est un peu sur de l'hygiène, mais c'est un peu logique. Hein. Les comptes qui sont bloqués ou désactivés, vous leur retirez leur permission. Ça devrait être parmi du processus d'entrée ou sortie. Pensez à retirer les attributions, les rôles assignements et tout. En fait, désactivez pas simplement les comptes, mais retirez-leur toute permission. À ne pas oublier, parce que ça, c'est souvent des attaques classiques qu'on retrouvait dans les Active Directory, de réexploiter des comptes qui avaient été désactivés parce qu'on leur avait donné des permissions, puis on leur a jamais retiré. Puis c'était disable, puis je re-enable, et puis c'est la fête. Le même principe s'applique toujours. Les guest account ou external account avec des droits ou des permissions avancées sur les abonnements, c'est non. C'est non dans Azure. Ça fait partie des recommandations de Microsoft d'ailleurs. Ils le permettent, mais ils disent que c'est faut pas le faire. Moi, je vous recommande de pas le faire. Même chose pour ce qui va être lecture et écriture, contributeur, pas simplement owner. Donnez un compte à un interne de votre environnement sur lequel vous avez la gestion. Et une fois que la personne a fini son mandat, vous désactivez son compte, vous retirez toutes ses permissions, vous lui retirez sa licence. Et puis si demain ça a besoin de continuer, vous lui redonnez ses permissions. Les access key view aussi, ça c'est quelque chose qui est important. C'est classique ça dans Azure AD. Réviser que les accès, en fait, qu'on n'ait pas de cumulatif d'accès, qu'on n'ait pas oublié de retirer des personnes d'un groupe. Ça, généralement, c'est intéressant dans Azure AD parce qu'on peut mettre de la responsabilité auprès de certains managers de groupe, par exemple, ou de rôle. Utiliser le PIM, le Privilege Identity Management, pour moi, c'est un peu comme le MFA, là, surtout sur les rôles contributeurs ou owners. Il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. Assigner des rôles à des groupes, pas à des utilisateurs. Là aussi, il y a une deuxième petite restriction, c'est utiliser des rôles ID plutôt que des noms. Il peut y avoir des changements dans les noms. Mais le but n'est là, un peu comme les custom roles, le but n'est pas de créer 95 groupes pour un utilisateur. Il ne faut pas tomber non plus dans quelque chose qui n'a plus aucun sens. C'est des choses qu'on peut voir des fois où on a 10 fois plus de groupes que d'utilisateurs dans des environnements et si on essaie de faire la cartographie de ce qui se passe, c'est impossible de comprendre. Et c'est là qu'on va utiliser des outils de cartographie comme Bloodhound pour comprendre par où passer. Et puis on verra, il y a 15 chemins parce qu'en fait, il y a des failles logiques à tous les niveaux.
Ouais, j'en ai vu des organisations comme ça où ils ont fait un groupe par besoin. Fait qu'essentiellement, ils viennent à multiplier les pains de façon astronomique, puis ça devient incidemment ingérable parce qu'il y a trop de choses. Donc, ça défait, ça va contre l'idée de simplification de la gestion. Fait qu'on va, on crée d'autres problèmes en faisant ça de cette façon-là.
Quoi, le mot, c'est entropie, c'est ça, là? C'est le désordre qui reprend le...
on multiplie le plaisir.
C'est ça, on passe d'une situation qui semble ordonnée, mais en réalité, derrière, on a quelque chose de complètement désordonné qui envahit tout. Donc, utiliser des rôles avec des groupes, mais faites preuve de logique et de gros bon sens, ce qui est un terme qui veut tout et rien dire, on s'entend bien. Mais si vous voyez qu'à un moment, ça devient impossible de gérer vos groupes, c'est que bah, vous êtes passé du côté où il n'y avait plus vraiment de gros bon sens à ce niveau-là. Les wildcards, les étoiles, comme je disais tout à l'heure, c'est beau dans le ciel la nuit, pas dans les permissions. C'est vraiment normalement un trigger alert. Il faut vraiment être vigilant sur ça. Surtout lorsqu'on est sur la... Par exemple, si on veut donner étoiles sur un groupe qui est... les administrateurs de comptes de stockage, c'est peut-être correct. Mais donner des permissions à étoiles pour tous les utilisateurs, par exemple, ça, c'est beaucoup moins correct. Globalement, ça, c'est des choses qu'on peut intercepter hein, quand on fait des politiques en YAML. On peut très bien avoir... moi, j'aime bien le DevSecOps. Un petit script ou une gate ou une étape dans nos pipelines qui va examiner où il y a une étoile, tu respectes pas les normes, ta policy elle ira pas plus loin, tu me remplaces ça par quelque chose de plus granulaire, ça sera bien parfait. Validez toujours vos exports de log pour un peu savoir tout ce qui va être modifié au niveau airbag, c'est intéressant, parce que vous le verrez pas dans Azure AD, c'est attribué du côté Azure, donc s'il y a des modifications à ce niveau là soyez informés. Créer des alertes, c'est faisable avec du monitor et des petites queries. Surtout les assignments au niveau des rôles de type contributeur, owner, user access administrator. Je doute que dans une organisation, on ait des nouveaux contributeurs ou des nouveaux owners sur un abonnement ou un scope particulier de façon quotidienne. Sinon, c'est qu'il y a une sacrée dynamique. Et ces genres de permissions, bah, il vaut mieux recevoir un faux positif à ce niveau-là, indépendamment du nombre. Hein. Si on en reçoit 200 000, c'est moins fun. Mais il vaut mieux être informé. Tiens, quelqu'un s'est vu attribuer le rôle User Access Administrator. Oh, ça, comment ça se fait? Ça vient d'où? J'étais pas au courant qu'il y avait une nouvelle personne dans l'équipe. Le change dont je parlais tout à l'heure, la modification là depuis Azure AD du Access Management for Azure Resources. Il se verra pas comme ça dans les audit logs d'une subscription. Microsoft a décidé de faire simple. Quelqu'un peut avoir des accès sur votre subscription et vous le saurez pas, même si vous êtes le propriétaire. Vous le saurez pas directement. En fait, il y a une histoire de bled encore où faut aller dans, cliquer au bon endroit pour avoir les journaux, pour voir cette opération-là. Ou sinon, c'est quelque chose qui peut être commandable au niveau role assignment en port shell, par exemple. Où vous allez pouvoir interroger le système pour savoir s'il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment vicieux parce que ça peut se faire sans que vous vous en rendiez compte. Il faut être très vigilant sur ce genre d'action et encore plus vigilant finalement sur qui est Global Administrator dans Azure AD parce qu'il peut venir dans votre environnement, même si vous ne lui avez pas donné les droits. Comme je disais, vérifiez les partenaires dans vos infrastructures. Si vous avez acheté des licences chez plusieurs, vous avez probablement des traces d'accès ou de permission accordées au fur et à mesure du temps dans le Microsoft Admin Center. Et bien sûr, c'est comme de l'hygiène, comme des comptes inutiles. Bah, on retire les permissions inutiles, en fait. On n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin. Vérifiez vos Manage Identity. Pas faire un focus seulement sur les utilisateurs. Il y a aussi tout ce qui est Manage Identity. Tout ce qui va être application, par exemple, que vous allez avoir dans un autre blade dans Azure AD, qui ne sera pas dans la partie user ou groupe. Et puis vérifiez, en fait, les permissions. Comment Là, il va falloir faire des recherches parce qu'il y a plein de solutions, mais il n'y en a pas de simple disponible depuis le portail d'Azure. Et il est possible de vérifier de façon unitaire, par exemple, pour un utilisateur, les accès. Donc, un peu comme les access review, si vous avez besoin. Si c'est votre équipe, vous pouvez vérifier les accès des membres de votre équipe. À ce niveau-là, c'est toujours une bonne chose. Autre point qui est intéressant aussi d'un point de vue identité, c'est faites en sorte d'avoir un système de revue des policies et utiliser de l'IAC. Parce que l'IAC, ça va vous protéger, ça va pouvoir mettre des passerelles humaines avant de déployer quelque chose. Ça peut ralentir le processus, mais en fait, il vaut mieux ralentir quand on arrive au bord d'une falaise. Et ça peut éviter justement d'un attaquant de, avec des policies, de créer un certain système de persistance sans que vous vous en rendiez compte avec des corrections automatiques dans votre infrastructure. Donc ça, c'est un peu le même principe pour tous les systèmes. Les Azure Policy sont encore un autre système qui pilote votre infrastructure Azure et ça peut faire attention. Faites attention aussi au RBAC. Quand je dis faites attention à ce qu'il soit présent. Tous les services Azure ne sont pas role-based access. Certains services, quand vous les déployez, comme AKS ou comme par exemple Cosmos DB, c'est dans les recommandations de Microsoft Defender for Cloud. Bah, par défaut, ils n'utilisent pas le système d'authentification, d'identité et de rôle du RBAC. Donc, il a son propre système avec une petite identité locale et autres. Donc, en fait, tout votre château de cartes peut s'écrouler puisqu'en fait, si vous mettez tout votre workload dans AKS, quelqu'un peut accéder au système dans AKS et bypasser complètement votre belle politique.
Ouais, ça, c'est l'aspect AKS, pas ça du sens du Kubernetes globalement. C'est parce que c'est un système dans un système. Ça, c'est un système géré qui est dans un système géré. Dans un cas d'éléments comme ça, c'est moins bien, disons, on va citer dans l'absolu, c'est moins bien géré que chez Google ou GCP parce que eux, c'est la nature même de leur fonctionnement. Dans le cas d'Azure, c'est un système supplémentaire ou une façon supplémentaire d'opérer qui, justement, utilise Kubernetes, un Kubernetes géré, ce qui est une bonne chose. Tu sais, faites pas, n'allez pas votre propre chose. J'utilise la méthode gérée parce que celle de AKS est supérieure en termes de sécurité puis de gestion. Cependant, c'est un système de sécurité indépendant parce que Kubernetes gère sa propre sécurité. Si vous avez un pod ou un node qui se fait pogner dans la chose, vous êtes foutu parce que l'ensemble de votre cluster va tomber. Et ils seront pas protégés par les fonctions d'Azure.
Ça, donc, c'est un pensez-y deux fois, là, avant de prendre une décision. Moi, ma recommandation, c'est que si vous avez une stratégie basée sur les role-based access, sur RBAC, essayez d'éviter d'avoir plusieurs systèmes qui vivent. Ça va rendre d'autant plus complexe, ou alors il va falloir mettre la main d'œuvre en phase, en adéquation avec vos objectifs, et ne pas penser que ça va se gérer automagiquement, puisque ça ne sera pas le cas. Celui-là, il est un peu plus douloureux au niveau des permissions avec les impacts qu'il peut y avoir avec AD. Azure AD, c'est penser un peu aux dépendances que vous pouvez avoir dans Azure AD. L'une des grosses dépendances, ça va être Active Directory. Avez-vous encore vraiment besoin d'Active Directory? Il y a beaucoup d'attaques qui repassent de Active Directory à Disconnect. Je remonte, je suis dans Azure AD. Et si je suis dans Azure AD, comme vous l'avez vu, je peux redescendre et j'ai accès aux subscriptions. Si vous n'avez plus besoin parce qu'il y a juste un file server qui encore reste et que vous avez de l'Active Directory, pensez-y deux fois à savoir comment vous allez pouvoir retirer un système entrant potentiellement. Je dis pas qu'il faut complètement supprimer Active Directory, ça peut être utile. Mais Disconnect est aussi un des vecteurs d'attaque pour remonter vers Azure AD et donc pour redescendre vers Azure. d'un point de vue positionnement Azure, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un chemin qui n'est pas contrôlé et qui est potentiellement souvent attaqué, et Active Directory a des failles intrinsèques. Donc, ça reste dans la couverture des menaces. J'aurais beau faire ce que je veux, s'il y a une porte d'entrée qui reste ouverte en permanence, j'aurais pas le contrôle absolu de ce qui se passe. Celui-là peut toujours être à débat, bien sûr. Au niveau des... ça, c'était au niveau des bonnes pratiques. Sinon, au niveau des solutions pour vous aider globalement, pour s'aider sur tout ce qui est identité, la complexité qu'on peut avoir là-dedans, on a des fournisseurs aujourd'hui qui fournissent des outils de CIEM pour aider sur tout ce qui va être détection comportementale anormale. Mettons que Arnaud Landry, tout à coup, se met à faire 10 000 requêtes pour faire des get content sur des storage accounts. Ça, c'est des activités qui vont être vues au niveau des audits et qui n'ont jamais été effectuées par Arnaud Landry durant les 12 derniers mois. Ça peut être détecté par défaut par ces outils-là. Qui peuvent aussi savoir par rapport à leur base que c'est une activité anormale parce que c'est les prémices potentiellement d'une tentative d'énumération puis passer à une autre phase. Ces outils, on parle d'Hermetic, on parle de Sunrise, on parle de Microsoft Entra Permission Management, par exemple, qui peuvent faire ce genre de choses. Là encore, si vous êtes multi-cloud, réfléchissez aux solutions que vous utilisez. Les solutions tout en un qui font tout, hein, qui font du CSPM, OCIUM et tout ça, il y en a peut-être, mais chaque outil un peu a ses forces et chacun sa préférence. Sinon, il y a des outils un peu différents comme Azure Hound, qui est un peu comme Bloodhound, mais du côté d'Azure. On parlait tout à l'heure des custom rules, des problématiques. Lui, il fait un peu la même chose dans Azure. Il va trouver les moyens d'élever les privilèges et par où passer. Plus vous avez rendu votre complexité, plus lui, il va s'amuser, il va trouver des chemins. Ce que vous ne pourrez pas voir dans un fichier Word de 400 pages qui décrit votre solution de sécurité parce que ça ne marchera pas. Lui, par contre, il va tout énumérer et puis il va bien voir qu'il y a des chemins pour y accéder. C'est toujours intéressant de savoir utiliser ces outils ou d'avoir des démonstrations à ce niveau-là. Ça permet de mettre en face des réalités, des perspectives qui sont différentes. Des frameworks. Utilisez des frameworks si vous voulez vous baser sur une référence connue. Ça viendra prouver ou justifier le fait qu'il faut mettre du MFA, par exemple, ou qu'il ne faut pas utiliser des accès guest. Il y a des frameworks de conformité, il y a des frameworks de knowledge base, il y en a plein de types. Il y en a qui sont plus orientés attaque, comme le MITRE. Il y en a qui sont plus orientés conformité, comme le NIST, par exemple, ou le Canada PPPM. Peu importe lequel vous utilisez, lesquels vous utilisez, pour quel le but est de se protéger au maximum. Le MITRE est intéressant pour ça, c'est que il y a toute la phase d'attaque. Ça peut aider justement à comprendre par où fermer, comment détecter, et choisir les contrôles les plus intéressants d'un point de vue défensif. Ça fait pas mal le tour sur les outils, les bonnes pratiques que j'avais à présenter. Des questions sur ça? Ou as-tu déjà expérimenté des solutions?
Je vois bien. Ouais. Oui, Azure Hound, par exemple. Tu te vois les compliance. Ce sont des choses dans lesquelles j'ai eu à travailler. C'est utile, c'est des guides. Ça te permet justement d'avoir la visibilité qui est difficile à obtenir autrement puis d'avoir justement le chemin d'attaque. Mais tu sais, justement, c'est où tu t'embarques, là, justement, les chemins d'attaque?
Ouais, c'en était un que j'avais récupéré sur un blog, justement. C'est souvent en fait quand on voit ce genre de choses là, qu'on voit qu'il y a des, on remonte sur un KRBGT puis qu'on passe sur un AD Connect puis que ça remonte dans Azure et là en fait, mais quand on est simplement à gérer la sécurité dans Azure, là on est très loin de cette partie de dire mince, on a une porte d'entrée qui est restée dans le on-prem qui permet de remonter, mais faut en être conscient parce que sinon c'est tout le château qui peut s'écrouler et il y a une porte dérobée qui est restée ouverte. Comme je disais tout à l'heure, un global admin est une porte dérobée. Des accès trop élevés, c'est une porte dérobée. Un compte qui n'a pas d'MFA, ça j'en ai déjà vu plein, des contributeurs qui n'ont pas d'MFA, c'est une porte ouverte. Ça, c'est carrément une porte ouverte. C'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut comprendre. Et puis, si vous regardez les différents blogs, hein, Azure AD AttackPath, Azure AttackPath, au-delà des failles de Microsoft, là, comme celle qui vient d'être documentée, expliquée correctement récemment, il y a déjà toutes celles qui peuvent être liées à la mauvaise configuration d'un environnement. Et on en fait par défaut beaucoup parce qu'en fait, c'est, comme je le dis souvent, c'est fait pour que ça fonctionne, pas pour que ça soit sécuritaire par défaut. C'est sécuritaire, mais c'est à nous de faire la sécurité. Si on a choisi de pas activer une fonctionnalité, Microsoft l'activera pas automatiquement pour nous.
Non, et puis parfois, il y a des coûts à certaines fonctionnalités, là, ce qui est un peu, des fois, un peu vexant de savoir qu'il faut payer pour avoir plus de sécurité, mais ça fait partie du modèle d'affaires des grands clouds. Là.
Ouais, il y en a eu des critiques comme ça du côté de 365 pour avoir justement des journaux d'activité, par exemple. Il fallait payer une licence premium de je ne sais pas quoi. Ça devient discutable parfois hein, à ce niveau-là sur savoir payer une licence pour avoir accédé aux journaux d'accès à une ressource. Je suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr, les logs, ça crée du stockage. Hein. Payer pour le stockage en arrière, probablement. Mais payer simplement pour activer des journaux, ça devient un peu comme un piège. Hein. Ça devient douloureux. On n'a plus vraiment le choix, parce que si on veut être correct, on va devoir y accéder à ces journaux. Donc, toujours bien réfléchir. Les blog posts, il y en a des centaines. Vous retrouvez encore des communications. Il y en a plein, que ce soit sur le TriMax Security qui parlait d'Azure AD aussi, en passant par Active Directory ou les sites comme AD Internals ou cloudbrowser.info. Il y a plein de documents qui expliquent par où passer, comment exploiter en fait les différentes misconfiguration, généralement, c'est des mauvaises configurations. Trop de permissions, pas de protection de l'identité, processus de détection déficiente ou inexistant. Et puis, mauvaise compréhension de l'isolation entre les systèmes, finalement. Entre Entra, M365 et le côté Azure, c'est toujours à prendre en compte. Ça te cite sur mes points qu'il y avait sur la partie identité chez Microsoft.
Très intéressant, très vaste aussi. Ces éléments-là, il faut faire très attention, il faut être très prudent, j'espère. Puis il faut être conscient, faut être conscient de l'environnement qu'on a, faut être conscient des éléments comme ça. Et la découverte et la connaissance est très, très importante dans le contexte.
Mais surtout qu'en fait, il y a des actions simples. Dans Azure, par exemple, simple comme déplacer une machine virtuelle dans un autre VNet, ça ne se fait pas dans Azure comme ça. Donc, c'est jamais très simple. Faut y penser des fois. Ça peut paraître simple, mais ça ne se fait pas. Mais par exemple, le découpage des abonnements peut aider à avoir un découpage des responsabilités et des risques en adéquation. C'est sûr que quand on met tout son argent dans un seul coffre-fort ou dans une seule action, c'est un pari.
Il faut segmenter là, pour justement éviter que la zone de déflagration soit trop grande. Donc, c'est le fait de séparer par abonnement, c'est vraiment le modèle de base, c'est-à-dire de séparer tes zones de déflagration par abonnement pour limiter le problème s'il y en a une qui se fait compromettre. Non, on n'en compromettra pas les autres dans la mesure où les privilèges au niveau des abonnements sont bien ségrégés entre les différentes personnes.
C'est un peu l'idée, là. Oui. Et c'est probablement pas dans la mesure, c'est quand un abonnement sera compromis parce qu'il se passera quelque chose. Parce qu'il y aura un incendie à un moment quelque part.
C'est inévitable. C'est bien. Ben, je te remercie énormément par ce grand tour d'horizon-là qui est quand même assez vaste. Je pense qu'il va y avoir des suites à ça. On va devoir creuser. Fait que je te remercie énormément.
Le plaisir est pour moi.